À 73 ans, après des démêlés judiciaires pour corruption, Benjamin Netanyahou a été investi Premier ministre pour la troisième fois. Le 29 décembre dernier, son gouvernement a prêté serment, une coalition mêlant ultra-orthodoxe et ultra-nationaliste sous l'autorité du Likoud, le parti conservateur. Un virage à droite toute, accompagné d'une réforme controversée de la justice. L'influence de la Cour suprême sur la vie politique serait limitée pour laisser le champ libre au gouvernement. Des accusations balayées hier par Benjamin Netanyahou.
À vrai dire, ce que nous cherchons à faire, c'est de rééquilibrer les pouvoirs, comme ce fut le cas de l'État d'Israël pendant 50 ans. Et comme c'est le cas aujourd'hui dans toutes les démocraties occidentales.
Mais dans la rue, avocats et juristes craignent la mainmise de l'extrême droite sur les décisions à venir, sans garde-fou.
Les mesures que le gouvernement est en train de prendre sont destinées à renforcer le gouvernement avec des pouvoirs illimités. Israël ne sera plus la même démocratie qu'avant.
Alors que d'anciens ambassadeurs d'Israël s'inquiètent eux aussi dans une tribune pour le futur de leur pays, Benjamin Netanyahou a-t-il fait le choix d'une politique illibérale ? En Israël, la démocratie est-elle vraiment en danger ?
Donc, législatives en Israël, au mois de novembre, ont porté au pouvoir une coalition intégrant aux côtés du Likoud conservateur de Benjamin Netanyahou plusieurs partis radicaux. On peut notamment citer les partis orthodoxes puissance juive et sionisme religieux connus pour leurs propos anti-palestiniens et le mouvement Noam qui est ouvertement homophobe. Pour autant, Alain Diekhoff, est-ce qu'on peut parler de gouvernement d'extrême droite ?
Non. C'est un gouvernement dans lequel l'extrême droite est présente, évidemment. Mmh. Mais il faut rappeler qu'ils ont eu 10% des sièges à la Knesset. Bon, mmh. 14 sur 120, c'est quand même pas un raz-de-marée, si vous voulez. Mmh. Donc, bien sûr, oui, ils sont présents. Ce qui fait que, si vous voulez, leur poids politique est finalement plus important quelque part que leur poids parlementaire, ça tient au système. Mmh. Le système de la proportionnelle intégrale oblige à des coalitions et va donner nécessairement des partis pivots qui sont indispensables à la constitution de la coalition, un poids qui excède en réalité le poids parlementaire strict.
L'extrême droite au gouvernement, ça a existé dans les années 2015-2020, avec le parti, le foyer juif de Naftali Bennett. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette extrême droite n'est pas de la même veine que l'autre extrême droite. Là, ce sont des sionistes religieux ultra-orthodoxes. C'est une combinaison qu'on connaît mal en France, de combinaisons qu'on appelle Khardali, Khalidi Leomi, orthodoxe et ultra-nationaliste. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que pour la première fois, on a un Premier ministre faible. Un Premier ministre qui n'est pas en mesure de leur tenir tête. Ils peuvent tout exiger. Et ce qui effraie les gens, les manifestants, c'est que tout d'un coup, il y a une espèce de vague, une espèce de vague de revendications, d'exigences de la part des partis ultra-orthodoxes et des sionistes religieux qu'on n'avait pas connu dans le passé. Autrefois, le Premier ministre pouvait freiner et dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Actuellement, il a cédé sur beaucoup de points.
Agnès Levallois.
C'est ça qui, de coup, donne l'image, en tous les cas, d'un gouvernement d'extrême droite. C'est le fait que ces petits partis, effectivement, peuvent faire basculer. Et en fait, Netanyahou n'est pas en mesure de leur tenir tête véritablement. Et on l'a vu, la première mesure qui a été prise par un des ministres, et pas des moindres, le ministre de la Sécurité nationale, qui va sur l'esplanade des mosquées, qui est une façon de dire « je suis là et je montre ce dont je suis capable ». Et le Premier ministre ne peut pas lui dire « vaudrait mieux éviter ou attendre un petit peu ». Il y va, s'affranchissant aussi de la...
Vous parlez d'Itamar Ben-Gvir.
Absolument. Et donc, on voit là que Netanyahou, effectivement, qui est faible, eh bien, n'a pas les moyens de résister. Et c'est ce qui est vrai, c'est ce qui donne, du coup, cette tonalité et de se dire que ce gouvernement est un gouvernement d'extrême droite, même si, effectivement, comme l'a dit Diekhoff, ça ne représente pas tant de députés que ça, mais avec une capacité.
Parce qu'il y a aussi des laïcs au Likoud, ou en tous les cas, des plus modérés au sein du parti de Benjamin Netanyahou.
Un petit peu.
Alors, tout était tout ça ensemble, Sami Cohen, on a l'impression de quelque chose qui est inéluctable. Une sorte de mouvement de droitisation inéluctable, à la fois démographique, sociologique.
La droite est bien installée. On le voit, on le voit à la Knesset. Plus de 70 députés, 72, on pourrait dire 72, 73 sur 120, sont de la droite bien dure, pas une droite centriste. Donc,
et dans l'opinion.
Au fond, ce qui est très grave, c'est qu'on ne voit pas très bien comment les choses pourraient changer à court terme.
En même temps, il y a des gages qui sont quand même donnés à la gauche, non ?
Excusez-moi, je dirais que la situation serait plus inquiétante si Benjamin Netanyahu, un jour, décidait de quitter la vie politique, puisqu'il était condamné, quitter la vie politique, eh bien, rien n'empêcherait l'ensemble des partis politiques de droite de faire alliance. À ce moment-là, il y aura un bloc assez cohérent qui pourrait changer, en fait, beaucoup de choses dans le sens d'un d'une droitisation accrue. Mais je voulais dire une chose concernant les ultra-orthodoxes. Parce que tout à l'heure, j'ai vu sur un de vos panneaux, il était indiqué que 1 sur 4
oui.
des juifs
oui.
israéliens seraient ultra-orthodoxes.
Oui.
Non, d'après le Bureau central des statistiques, voilà, c'est en fait 1 sur 3 d'ici 2065. On peut imaginer, si, le jour où on arrivera à cette situation, le poids qu'ils auraient sur la vie politique israélienne.
Je vous propose... On voit bien que cette opposition quand même est très désunie et n'a pas réussi à finalement présenter un front suffisamment fort pour pouvoir représenter éventuellement une alternative. Et on voit bien une gauche, mais comme on a vu dans d'autres pays, c'est-à-dire qui a été au pouvoir pendant quand même très longtemps et qui s'est aussi usée à l'exercice de ce pouvoir dans des circonstances aussi par moments qui ont été des circonstances compliquées. Il y a eu quand même toute la période du processus de paix. Je veux dire, quand il y a eu les accords d'Oslo qui ont été signés, que ces accords ont été arrêtés par l'assassinat de Rabin, qui représentait aussi cette gauche. Et donc, on a vu toute une gauche qui, finalement, s'est complètement affaiblie au fur et à mesure des années. Et on est dans une logique, finalement, qu'on retrouve aussi sur la scène internationale. Je veux dire, ce qui se passe en Israël aujourd'hui n'est pas très différent de processus qu'on a pu voir dans d'autres pays où on voit y compris en Europe, avec une droite et qui est plutôt du côté de l'extrême droite que de la droite centriste, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, et qui arrive à s'imposer face à des désillusions, face aussi à toute une rhétorique, finalement, qui porte ses fruits.
Puisque je l'ai dit auparavant, Avigdor Lieberman, le chef du parti russophone, est clairement à droite, comme une partie, d'ailleurs, de ceux qui sont aussi dans le parti Nouvel Espoir, qui venait du Likoud. Donc, si vous regardez... Si vous faites le partage au sein de l'opposition actuelle à Benjamin Netanyahou, vous voyez que ce qui est vraiment à gauche, bah, c'est le parti travailliste qui a 4 malheureux députés. Le parti de Lapid est un parti en fait centriste, du centre-gauche certes, mais plutôt centriste libéral, on pourrait dire. Et beaucoup d'anciens électeurs, en réalité, du parti travailliste ont voté pour lui pour faire un vote titulaire. Et je pense que c'était tout à fait justifié. Mais un indice que quand même la gauche est quand même extrêmement affaiblie, c'est que le parti Meretz, qui était un parti historique, qui était toujours présent à la Knesset depuis très très longtemps, n'a pas passé le seuil de 3,25%, ce qui était quand même pas énorme.
Mais le président de la droite, l'ensemble de ces droites, ont un discours extrêmement hostile à l'égard de la Cour suprême, qui ne correspond pas à la réalité. Il lui reproche, en fait, d'avoir confisqué le pouvoir et de pouvoir, en fait, contredire et annuler des lois de la Knesset. En fait, le nombre des lois qu'elle a retoquées sont très peu nombreuses. En fait, je vous donne un exemple. Par exemple, toute la politique de colonisation de l'État étant occupé. La Cour suprême, qui a été sollicitée, a déclaré d'emblée qu'elle s'estimait non compétente parce que la question des colonies était une question... politique n'était pas une question judiciable. Donc, en fait, elle l'a fait parce qu'elle craignait très bien un retour de bâton. Et les juges, au fond, sont très prudents. Mais cette droite souhaite le pouvoir absolu, pas seulement le pouvoir.
Mais qu'est-ce que ça va changer à la justice? Qu'est-ce qui est prévu concrètement?
C'est que, au fond, toute loi ordinaire qui serait susceptible d'être ou qui serait retoquée par la Cour suprême, au motif, elle ne retoque pas n'importe quoi, c'est au motif qu'elles ne sont pas compatibles avec les lois, avec une des lois fondamentales, et surtout les lois fondamentales sur les droits de l'homme et les libertés. À ce moment-là, ce qui est prévu, c'est une clause qu'on appelle la clause du contournement, qui permettrait à la Knesset de reprendre cette loi, de la revoter au bout de 3 mois avec une majorité de 61 députés sur 120. Donc, ce qui est très grave en Israël, c'est que les lois fondamentales peuvent être modifiées par la majorité au pouvoir comme ça, en quelques semaines. Si vous prenez par exemple le cas en France, en France, il faut soit un référendum ou bien un vote des deux chambres à la majorité des deux tiers. Et ça, ça n'existe pas en Israël.
Ça montre, en effet, une des fragilités de la démocratie israélienne, c'est que il n'y a pas de constitution de plein droit. C'est-à-dire que les lois fondamentales essayent de pallier l'absence de constitution formelle, mais c'est un palliatif qui n'est pas satisfaisant. On le voit, la preuve. Il y a quelques lois fondamentales qui sont protégées davantage. C'est-à-dire que si vous voulez les modifier, il faut une majorité qualifiée. Mais la plupart, vous les changez en effet avec la majorité simple.
Je ne crois pas du tout que ça puisse faire changer d'avis le gouvernement actuel, puisqu'on voit bien que les membres les plus durs de ce gouvernement n'en ont que faire. Finalement de la réprobation internationale, puisqu'ils sont dans leur logique et ils considèrent que de toute façon ils sont dans leur bon droit, et que Netanyahou fait aussi tout ça pour échapper à la justice, quand même, n'oublions pas que toute la stratégie de Netanyahou engagée dans des affaires, et donc l'objectif aussi en changeant, en essayant détourner de changer, c'est de détourner l'attention et de faire en sorte que les lois lui permettent d'échapper à la justice. Donc lui, il est aussi complètement engagé personnellement dans cette affaire, soutenu en cela par des membres extrêmement radicaux. Donc effectivement, à l'extérieur, il y a un certain nombre d'interrogations, mais pour l'instant, je ne crois pas que les réactions, qui sont d'ailleurs pas non plus énormes, puissent faire changer, en tous les cas, infléchir à ce stade ce gouvernement tel qu'il est, qui est un gouvernement, pour l'instant, qui donne l'impression d'être très convaincu, en tous les cas, de la justesse de ses propos.
Ça ressemblerait beaucoup à la démocratie libérale d'Orban, mais ce serait très grave, parce que dans le système israélien, le seul contre-pouvoir institutionnel est la Cour suprême. Contrairement à la France, contrairement aux États-Unis, vous avez quantité de contre-pouvoirs institutionnels. Là, si la Cour suprême tombe, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la Knesset peut voter des lois sur tout et n'importe quoi.